dernière fois, commencer par la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Korah. Alors, si vous allez prendre donc le texte au début. Bien, alors nous allons lire le texte juste au verset que nous aurons étudié. Et je vais d'abord de quelques mots sur le début de la paracha. Je vous rappelle que lorsque nous avons étudié le plan du chumash, la définition qui nous est apparue du livre de Bamidbar, c'est le livre qui raconte les épreuves de la génération du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Comme nous l'avons vu, je pense, la semaine dernière ou la semaine d'avant aussi, il y a deux semaines. Je vous rappelle brièvement quel était le thème que nous avons étudié à ce sujet, c'était de la même manière que l'identité d'Israël s'est préparée à travers l'histoire des patriarches, qui ont eu à faire la preuve à l'échelle individuelle qu'ils étaient capables d'être habitués, chacun par rapport à la vertu qui lui était propre. De la même manière, le peuple de la descendance des patriarches, en tant que société, a été mis à l'épreuve pendant tout ce temps de la constitution de l'entité d'Israël au niveau de la génération de la sortie d'Égypte. Et dans les textes précédents, juste à celui que nous avons à lire cette semaine, la Torah nous a donné le récit de ces mises à l'épreuve. Et la paracha de Korah commence par une épreuve particulière qui est celle de la machloket, c'est-à-dire de la des conflits qu'il y a entre les personnes qui, chacune d'entre elles, incarnent une valeur, représentent une valeur. Et il s'agit d'une société où chaque individu est candidat, si je veux dire, à être chacun tout seul, chacun pour lui-même, une personne, et c'est le propre d'une telle société de faire apparaître des conflits entre personnes, surtout lorsqu'il y a une proximité d'identité, ce qui est le cas dans le récit qui va nous être donné, la révolte d'un des chefs de la tribu de Lévi, qui est Korah, contre Moïse et Aaron. C'est ainsi que le récit commence. Alors nous allons prendre immédiatement le texte. Vaïkar Korah, et Korah, Benitra Benkeha Ben Lévi, qui nous est d'abord identifié comme étant effectivement un des principaux chefs de la tribu de Lévi. Il est fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Un des enfants de Lévi, c'est Kehat, et un des fils de Kehat, c'est Yitzhar, et Korah est fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Il a donc une lignée très précisément énumérée, vous rappelez, qui le rattache aux enfants de Jacob, pas n'importe quels enfants de Jacob, Lévi, dont on a entrevu l'importance de l'histoire dans les cours précédents. Alors je relis le texte. Vaïkar Korah, Benitzar, Benkeat, Ben Lévi, et Korah, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, Vaïkar, Pri, je laisse la traduction de ce mot un peu en suspens, et Korah, Pri, Vedatam Vahabiram, ainsi que Datam Vahabiram, Ben Eliab, fils de Eliab, qui sont les princes de la tribu de Reuven. Réon Ben Pelet, Ben Reuven, ce qui est dit dans ce verset, ainsi que On Ben Pelet, fils de Reuven. Ce verset est un des versets difficiles à traduire directement ou littéralement, parce que vous avez remarqué dans la traduction pré-littérale qu'il manque un complément d'objet au verbe. On nous a indiqué une sorte d'alliance, de collusion que nous allons voir, entre Korah, grand dignitaire de la tribu de Lévi, Datam et Abiram, dont le nom revient souvent dans ces mises à l'épreuve de l'histoire de cette génération, pour rappeler que, selon le Midrash, ces deux Hébreux qui se querellaient au moment où Moïse intervient pour la première fois dans l'histoire d'Israël à la sortie d'Égypte, vous vous rappelez ça, c'est dans le chapitre 2 de Shemot, c'était précisément Datam et Abiram. Et donc, collusion entre Korah, Datam et Abiram, et On Ben Pelet, qui sont de la tribu de Reuven. Et le verbe dit Vaïkar, il prie. Alors on verra très rapidement le commentaire de Rachid, je reviendrai sur le verset par la suite. Le sens qui nous est donné par les commentateurs, c'est qu'il s'est mis à part. Il a pris parti, littéralement, comme on a l'habitude d'expliquer en français. Vous allez voir peut-être juste Rachid, dans le deuxième commentaire de Rachid sur ce verset. Vaïkar Korah, Lakar et Ratsmo, le Shadachet. L'Iliode, Nechela, Mitsukhaïda, je traduis. Qu'est-ce que ça veut dire les corps pris et il n'y a pas de complément d'objet? Il faut le comprendre ainsi, nous dit Rachid. L'akar et Asmo, il s'est pris lui-même, il a pris sa propre personne. Les tzadakhés, d'un autre côté. C'est-à-dire il a fait, on peut dire ça, en expliquant à part, déjà par le sens d'un parti. Il a fondé un parti à part. Peut-être qu'en français on est aidé par la signification des termes. Fonder un parti, c'est se mettre à part. Donc, la cathédrale, les tzadakhés, le yot mechela, et afin d'être, le résultat étant qu'il était en machloket, nechela, chelek aussi ça veut dire une partie. Et c'est plus que controverse, c'est un conflit. Le Torah est là, du dedans de l'assemblée, les horaires à la keuna, pour fomenter une contestation contre le fait, littéralement contre la prêtrise, keuna, contre le fait que Moshe dit au nom de Dieu, au nom de la Torah, que c'est Aaron qui sera le grand prêtre. C'est-à-dire qu'il a des raisons de penser que si déjà Moïse, fils de Amram, descendant de Lévi, est institué comme chef politique, alors la Kevina, la prêtrise, lui reviendrait à lui, Korah. Il y a un mot en français qui indique le discours de propagande qui va tenir à l'Assemblée d'Israël à ce niveau-là pour les inciter, on dit en français les exciter, à entrer en rébellion contre Moïse et Aaron. Il accuse Moïse et Aaron de népotisme. Vous connaissez ces mots-là en français? C'est-à-dire de favoriser les membres de sa propre famille au détriment d'autres qui auraient mérité, pour des raisons autres, de disposer, d'être à un poste qui est donné, au contraire, par protection. Okay, voilà à peu près le discours. Et c'est le sens que donne Onkelos, lorsque Onkelos, vous l'avez d'ailleurs dans le texte, je suppose, après le texte hébreu, okay, la première traduction du premier verset, voilà comment traduit Onkelos, Jaïkar Korah, Rif Paleg Korah. Et vous voyez, c'est le mot qui va entrer en hébreu rabbinique déjà, dans l'hébreu moderne, pour dire un parti, Mishlava. Alors, on a certainement d'origine araméenne. Pélé, ça veut dire une partie. Pélé, ça veut dire une cassure, d'abord, une brisure d'unité. Je vous promets avec le français aujourd'hui. Vous rappelez Dora Pelaga, lorsque l'humanité une, après la civilisation de Babel, de l'Antiquité, s'est éclatée en différentes nations. Cette génération s'appelle Pélé. Vous vous rappelez de cela? Bon. Les échecs de Montelos, Rik, Palek, Meshelak, être une unité qui va éclater en partie, Michel Aïda, il s'est séparé, il a pris parti, il a fait partie, si eux, du reste de l'assemblée, le Harik, Bomarloquet, pour, comment dire, s'en tenir à une controverse, un conflit, et ensuite on nous donne des versets qui confirment ce sens. Alors rapidement, avant d'aller plus loin, je vais essayer de vous montrer, d'après la Massorette, que c'est le sens chaque du verset lui-même. On va relire cette expression avec quelques nuances d'approche suffisamment pour que ça apparaisse en français. Ceux qui connaissent les taramis, c'est-à-dire les accents de l'accentuation de la lecture du verset, ça va vous aider assez rapidement. Alors suivez avec moi. Vaikar Korah. Vous avez comme accentuation, je vous l'ai dit en prononciation sarade, chaque fois que je me propose d'apprendre par cœur la prononciation ashkénaze, j'oublie, j'ai pas le temps, je commence par la prononciation italienne. Il y a différentes manières de dire les mêmes accents dans le lion sarade. C'est Chopaoler Zafekatel, Vaikar Korah. Ça fait une unité de lecture. Et Korah prie. Vous voyez qu'à part les voyelles, vous avez des accents sur le texte. Okay, et Korah prie. Qui est ce Korah? C'est Ben Itzhar, Ben Kehat, Ben Levi. Ensuite, sous Ben Levi, vous avez Natnah, c'est-à-dire point virgule. Deux points. Alors on peut lire comme ça. Vaikar Korah, et Korah prie. Qu'est-ce que Korah prie? Il a pris le fils de Yitzhak, fils de Kéa, fils de Lévi, c'est-à-dire lui-même. Vous avez compris comment la lecture de Rashi correspond au texte divin. Est-ce que c'est suffisamment clair? Ça va? Bien. Ça veut dire le fait de se prendre soi-même à part pour faire partie. Et déjà, le texte de la Torah accuse cela, désigne cela, condamne cela comme étant une brisure de l'unité d'Israël. Et voici ce que je voulais vous proposer comme thème de réflexion à ce sujet. Il y a une différenciation naturelle des différentes manières d'être Israël à l'intérieur de la même unité de société à travers les tribus. Nous dirions aujourd'hui à travers les différentes communautés. Mais le fait de superposer à cela une division artificielle qui a en réalité un objectif de querelle intéressée, c'est l'aspect négatif. Je ne voudrais pas trop forcer la comparaison avec ce que nous vivons dans les temps contemporains, c'est-à-dire la division en tribus est une division naturelle qui, lorsqu'elle est dans la perspective de l'unité de l'ensemble, est un enrichissement. Mais la division en parties risque d'être une brisure de l'unité, et tout de suite les termes employés par le texte indiquent qu'il y a là, vous rappelez donc, mais je peux y revenir, l'explication de Rashi directement, qu'il y a là un prétexte, en réalité, un alibi, je ne sais pas comment dire, pour vider une querelle personnelle. C'est-à-dire que c'est intéressé, et ce n'est pas là une différenciation naturelle. Donc les sociologues pourraient analyser cela jusqu'au bout en montrant que ça arrive à toutes les sociétés, mais dans la société d'Israël, il y a là un danger. Et nous allons voir effectivement comment la Torah nous montre dans le discours de Korah, que le discours que tient Korah à Moïse, et tous les éléments de ce qu'on pourrait appeler une mauvaise querelle. Alors je cherche encore le mot en français, ça veut dire un plaidoyer pro domo. Plaidoyer pro domo, ça veut dire sous l'apparence d'argumentation objective se cache un intérêt personnel subjectif. Parce que l'idée est suffisamment claire. Donc nous allons voir avec. Alors je reprends donc la lecture. Laïkar Korah. Et Korah prie. Qu'est-ce que Korah prie? Il prie le fils de Yitzhar, le fils de Kehab, le fils de Lévi, c'est-à-dire ses droits à une certaine dignité, c'est l'énoncé, sa dénomination, c'est l'énoncé de sa valeur, puisque ce nom déployé complètement, un tel, puis un tel, puis un tel, puis un tel, implique en lui-même, simplement dans la dénomination, l'indication de ce dont il va se prévaloir. Ça va jusque là ? En réalité, comme vous voyez, le pshat n'a pas de traduction. Si je traduis Raïka et il prie, et il faut un complément d'objet. C'est de lui. Donc il faut comprendre ce Raïka qu'il a pris parti, comme explique Rachid. Il a tout dit chez Moshe, et ils se dressèrent contre Moïse. Va Anachim, le démon d'Israël, et avec eux il y avait des personnalités du dedans des enfants d'Israël, Hanishim ou Mataïm, 250. Ben Rachim qui cite l'explication de cette expression-là, qui vient d'être traduite, dit qu'il s'agissait des 250 rachés Sanhedraot, c'est-à-dire chefs de tribunaux, c'est-à-dire des grands d'Israël. Donc, Korah, pour sa querelle propre, pour la querelle propre, avec comme allié Homme Ben Pelet, qui faisait aussi partie du prince de la tribu de Ruben, on va voir l'alliance de deux querelles contre Moïse, on réussit à rassembler contre Moïse 250 grands notables d'Israël, des amis des Chachamim qui étaient capables d'être chefs de tribunaux. C'est une révolte. Donc une révolte extrêmement importante. Nicolas Schreck. C'est une révolte extrêmement importante. Et je vais, avant d'aller plus loin, en dire quelques mots. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la querelle de Korah, c'est-à-dire la contestation des notables de la tribu de Lévi contre le fait qu'Aaron a été désigné comme grand prêtre. Il y a d'autre part la contestation de la tribu de Réhouven, qui était la tribu premier-née, si je veux dire, qui réclamait la royauté contre Moïse. Et donc il y a, semble-t-il, du dedans de la société d'Israël, considérée comme société naturelle qui se doterait elle-même de ses propres institutions, la royauté et la prêtrise d'une querelle contre la royauté et la prêtrise désignées par la querelle. Il y a donc alliance de deux préoccupations intéressées, si vous voulez, mais qui vont être exprimées par le verset que nous allons étudier avec un argument d'apparence objective, et c'est très exactement ce qu'on appelle aujourd'hui la démagogie. Ça veut dire se servir d'un argument d'apparence objective pour des intérêts personnels. Est-ce que c'est clair cela? Nous allons voir qu'il y a là une cassure dans l'unité d'Israël qui, selon le Midrash, va durer jusqu'à la fin des temps de l'histoire d'Israël. Enfin, pour reprendre les termes que nous employons toute la semaine, les semaines précédentes, jusqu'au temps messianique, l'unité d'Israël sera véritablement refaite. En effet, un des Midrashim, du Midrash Rabba sous les yeux, pose la question suivante. Pourquoi le texte dit Kora, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi, et ne continue pas Ben Lévi, Ben Yaakov? Sans doute vous avez déjà entendu ce Midrash. Le Midrash dit que Yaakov a demandé à Dieu que son nom ne paraisse pas dans cette généalogie, parce que c'est une généalogie qui va contre ce qui est la valeur principale d'Israël, c'est-à-dire le principe d'unité. Il ne veut pas participer à un récit où on parle de machloket, c'est-à-dire de conflit. C'est clair, tout cela? Alors je continue. Verset 2. Vayakumu lifnei Moshe, ils se dressèrent contre Moïse, Vanachim et Israël, et avec des notables des enfants d'Israël, Hamishim et Mataïm 250, Messie et Aïda, prince d'assemblée. Messie et Aïda, prince d'assemblée, ça veut dire capable d'être chef de Sanhedrin, c'est-à-dire vraiment Tétioli. Kéri et Moël, Anche et Chen, ceux qui étaient chargés de proclamer la convocation de l'assemblée, Anche et Chen, les gens de renom. J'aurais pu utiliser ce verset déjà hier soir, parce que j'étais là contre vous, lorsque quelqu'un m'a posé une question de ce côté, en me demandant lorsqu'il y a une controverse apparemment idéologique des grands d'Israël contre une minorité, on a fait de ça à propos de notre sujet. Alors, nous en avons là un exemple, Anche et Chen, des gens de renom. Vaïkahalou al-Moshe al-Aaron. Et ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Vaïomrou al-Ehem. Et ils leur disent Ravlachem. Ravlachem, littéralement, ça veut dire c'est trop pour vous. Vous avez pris trop d'honneur. Vous avez pris trop d'importance pour vous-même. Qui kolareda kulam kedoshi. Car toute l'assemblée et tout. Amashim Kedoshi, c'est-à-dire des gens saints, des hommes saints, avec un pied, sainteté. Uptocham Hashem, et Hashem est en eux. Je traduis parmi eux, mais plus littéralement, Uptocham Hashem. Toute l'assemblée sont des Kedoshim, et Hashem est en eux. Et le verset lui-même va expliquer quelle est leur intention de contestation. Umadua Nasei, et pourquoi. Vous mettez-vous comme chef, littéralement, pourquoi vous élevez-vous Alkeh Hashem au-dessus de l'assemblée de Hashem? Quel est l'argument ici? Il est très simple. C'est Korach et ses alliés, dans la controverse contre Moïse, se réfèrent à ce qu'a été l'enseignement de la Torah elle-même, donné par Moïse dès l'origine, pour dire le projet de constitution de l'assemblée d'Israël. C'est-à-dire, l'argument qui est cité ici, qui kolareda kulam kedoshim uptocham Hashem. Toute l'assemblée est une assemblée d'hommes saints et Hashem est en eux. Pourquoi cette assemblée aurait-elle des chefs qui s'imposent à elle? Ça veut dire que il y a ici une contestation entre Moïse d'avoir usurpé en laissant croire que c'est Dieu qui l'avait décidé, d'avoir usurpé le pouvoir pour lui et pour son frère Aaron. On ne peut pas avoir de contestation plus énorme à ce sujet. Est-ce que vous pouvez ajouter là? Alors, je reprends l'argument dans son aspect objectif. On se réfère au verset par lequel la Torah, dans le livre de Shemot, indique quel est le projet de la Torah elle-même pour le peuple d'Israël. Lorsque Dieu s'adresse à Israël au pied du Sinaï, vous trouvez cela donc dans le 19e chapitre, le chapitre 19 du livre de Shemot. Et dit Vatem Tivili, Mamnechet Kohanim de Goy Kadosh, et vous serez pour moi, Mamnechet Kohanim, une royauté de prêtres, de Goy Kadosh et une nation sainte. C'est-à-dire tout Israël est défini ainsi. C'est l'argument qui est repris ici par Korah, mais je vais contester l'installation de la hiérarchie que Moïse est en train de mettre en place dans la société d'Israël. Mamnechet Kohanim, tous sont rois et tous sont prêtres. C'est bon faire. Mamnechet, c'est-à-dire tous sont Mlachim. Kohanim, tous sont Kohanim. Le Goy Kadosh, pourquoi? Parce que la nation comme entité est Kulam Kadoshim, exactement celui Korah. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Kohar utilise un discours vrai pour un objectif intéressant. Est-ce que c'est suffisamment clair? La réponse finalement est très simple. C'est effectivement le projet de la Torah pour la société d'Israël. Mais c'est le projet idéal. C'est le projet, disons, messianisme. Dès que nous entrons dans l'histoire, il s'avère que cette société qui est vouée à cet idéal tel que le décrit Korah, si je me réfère à un autre verset de la parchamine du Mitra, que tout ce que dit le Mitra est vrai, même lorsque c'est dans la bouche d'un menteur. Vous comprenez, il devrait y avoir trop de faux dans le verset. Donc, lorsque Korah dit ce qu'il veut dire, c'est un mensonge, il dit la vérité. Qui pourrait donner le premier exemple sur lequel se base ce drache ici, là? Bien avant, tout au début du récit, de l'histoire de la vie. Pardon? Vous avez compris, la fin entendu. Qui a dit quoi maintenant? Nahash, qui a dit ça? Oui. Lorsque le serpent a dit au premier homme, Yéhitem Kelokim, le verre Tovara, et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal, il disait la vérité. Ça veut dire que le projet pour l'homme, c'est de devenir comme Dieu dans l'ordre de la connaissance du bien et du mal. C'est clair. Et alors, mais il emploie cet argument de façon démagogique en disant, si Dieu vous a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, c'est parce qu'il est jaloux de vous, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Vous voyez, en disant un mensonge, il dit la vérité. En réalité, c'est le projet du Créateur que sa créature devienne à ce niveau-là. C'est l'idéal du Tanitrafa. Ça veut dire de connaître la différence entre le bien et le mal à la manière dont Dieu la connaît. Est-ce que c'est clair? Pour vous rappeler de toute la stratégie du serpent, c'est pas décidé maintenant, ça nous prendrait vraiment trop de temps. L'interdiction était de manger du fruit de l'arbre qui est appelé l'arbre de la connaissance du bien et mal. J'en profite pour corriger une erreur habituelle. Il n'est pas écrit arbre de la connaissance du bien et du mal. En hébreu, ce serait Echadarat Hatovehara. Il y a écrit l'arbre de la connaissance du bien et mal. Echadarat Tovara. Ça veut dire que il y a un ordre de connaissance mélangé, ambigu, ambivalent, où le bien et le mal sont mélangés. C'est cette connaissance-là qu'il est interdit de s'approcher, enfin d'en être empoisonné, avant d'avoir goûté de la connaissance de l'arbre de la vie. Vous comprenez l'ordre? L'erreur avait été dans l'ordre. D'abord, avoir la connaissance de la vie, après, on a la connaissance intellectuelle que la certitude des connaissances de la vie permet de, d'éclairer, d'éclaircir, ça c'est bien, ça c'est mal. Je crois que le problème, le danger de la connaissance n'est pas la connaissance elle-même, mais c'est la connaissance ambiguë, c'est la connaissance ambivalente. Je cherche des adjectifs aujourd'hui dans une certaine idée de ce que je veux dire. Vous savez que tout l'objectif de l'étude de la Torah, à travers la Mishnah et la Gemara, c'est précisément de faire le birur, la distinction entre le bien et le mal. Les choses nous sont données mélangées. Le bien et le mal sont mélangés. Et l'objet du Talmud Torah, plutôt que Mishnah, littéralement, c'est d'étudier ce, il y a sûrement des mots en français plus précis pour ça, mais ce mélange, cette ambiguïté des connaissances, et qui est dans, en tant qu'expérience, le but. De faire ça, de distinguer dans ce doute, dans cette mise en doute, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est sain, ce qui est profane, etc. Vous voyez, voilà donc cet appétit de connaissance qui fait que, avant d'avoir les critères de la vérité, ils sont appelés l'arbre de vie. Aborder cette connaissance du bien et mal sont mélangés, et alors il y a empoisonnement de l'esprit, je ne sais pas comment dire. Donc, je referme cette parenthèse. Alors là, le Midrash s'appuie déjà sur ce premier exemple. Lorsque le serpent a dit ce qu'il a dit, il a dit la vérité. Seulement, où est le piège et la trappe? C'est que l'ordre, c'était d'abord d'accéder à la connaissance de la vie, qui s'appelle dans le texte, l'arbre de vie, et après seulement, avec cette richesse de connaissances, plus que richesse, cette sécurité de connaissances des critères de la vie, alors c'est très facile d'aborder la connaissance du monde extérieur où tout est mélangé, et de cette sorte de savoir voir clairement de quel côté le bien, de quel côté le mal. Je vous donne un exemple un peu pédagogique traditionnelle élémentaire. C'est vrai qu'il y a un grave problème de définition des programmes d'études dans les écoles israéliennes, dans les écoles juives en général d'ailleurs. Et si la société, c'est qu'on a signalé dans le séminaire, à peu près, ça m'est des trucs qu'on le cite, mais je crois même déjà hier soir encore, c'est pas une problème, c'est que la grande division de la société israélienne contemporaine vient des systèmes d'études. Voilà, j'ai écouté ça à la télévision. Ah, c'est ça la télévision. C'était quand? Non, 2020. Je t'arrête. Donc, ça m'a beaucoup frappé. Ça veut dire si il y avait au moins un tronc commun d'éducation en vie. Ensuite, de quoi les différentes tribus intellectuelles vous avez compris, la situation serait beaucoup moins grave, parce qu'on arrive vraiment au stade où, à partir apparemment des mêmes contenus d'études, les enfants d'Israël emploient des mots qui n'ont pas du tout le même sens pour les différents systèmes scolaires. Donc, c'est suffisant de dire comme ça. Et alors, dans l'éducation traditionnelle, lorsqu'il y a d'abord, dans le jeune âge, le Talmud Torah, ça veut dire les contenus réels, escalités, comme ils se donnent, comme ils sont, des contenus de l'éducation juive, de la culture juive, de la tradition juive, tout ça c'est jusqu'à la bar mitzvah. Après, il faut peu de temps à l'élève pour arriver à apprendre tout ce que l'on veut du point de vue de la culture générale. Quand c'est l'inverse, quand on ne donne pas d'abord la culture juive de base, alors on passe toute sa vie, des années entières, à apprendre des choses qu'on n'arrive pas à unifier du point de vue. C'est suffisamment clair ce que je veux dire. Je vais essayer d'imaginer ça un peu, d'après l'expérience que j'ai pu avoir dans ma vie, si on a fait le Talmud Torah de façon sérieuse, le contenu de base, de façon sérieuse, jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, ensuite, on arrive à un certain âge que, par exemple, il faut découvrir les philosophes de la culture générale. Il faut quelques heures pour comprendre un tel. Et savoir comment intégrer ça dans l'ensemble de la culture générale du point de vue de la tradition. Tandis que si on a pris cette base, alors on va passer des années et des années pour passer des diplômes sur un tel, et on n'a jamais le temps de comprendre le contenu réel. Vous avez compris un petit peu. Pourquoi on parlait de ça? L'arbre de vie d'abord, et après la connaissance ambiguë, c'est clair. Je crois que c'est suffisamment clair. Sinon, ça mérite la peine, ça mériterait qu'on en parle, ça mérite la peine qu'on en parle plus, mais je pense que c'est suffisamment clair. À partir du moment où on a eu accès à la connaissance, toutes les connaissances peuvent être remises à leur place. C'est évidemment simple, je l'ai dit, mais ça va bien. Bon, c'est une petite idée. Pas de chayim, il ne s'agit pas de la vie biologique, il ne s'agit pas de la biologie. D'accord, j'ai caché la question. Et c'est ce que les kabbalistes disent. C'est que la Kabbalah s'appelle Etzer Chaim et la Mishnah s'appelle Etzer HaTorah. Bon, j'ai ouvert là une parenthèse, il faut quand même que je ne referme pas dessus. J'explique d'ailleurs, c'est la réponse. Non, je n'ai pas d'autre chose à faire. C'est vrai que non. C'est vrai que les Talmud de Torah des kabbalistes s'appellent Etzer Chaim. C'est vrai que non. La tradition. Et le livre de base de l'enseignement du Hari s'appelle Etzer Chaim. C'est-à-dire que la Mishnah, elle, nous donne la loi pour la réalité. La réalité est ambiguë. Elle est au-delà. si on a déjà la connaissance de la Kabbalah qui a été trahie, alors on peut, avec assurance, avec certitude, faire ce travail de l'étude qui consiste à séparer le bien du mal, de savoir où est le bien et le mal, dans la réalité, en ambivalence, comme on a dit, de Tovara, de la réalité du monde extérieur. Par conséquent, ce que je viens de dire pose un problème très difficile. Pourquoi? Parce qu'en principe, on sait que l'ordre de l'étude, c'est d'abord le Mishnah Gemara et après Kabbalah. Alors voilà que ce que je viens de dire semblerait indiquer un ordre complètement inverse. D'abord Kabbalah, pour pouvoir ensuite comprendre Mishnah Gemara. Quelle est la réponse? Pardon? Non, c'est pas ça le problème. La chita du Sfarad, c'est qu'on appelle chez les Ashkenazim la chita du Maharal d'ailleurs. Il a entendu à Amsterdam, dans la Yeshiva des Sfaradim d'Amsterdam. Il a un chapitre là-dessus d'ailleurs. Écoutez, d'ailleurs, la chita de tout le monde à l'origine, c'est on commence par le Tanakh, ensuite la Mishnah, ensuite la Gemara, ensuite tout ce. En fin de compte, c'est arrivé dans l'histoire de 2000 ans de Yeshiva qu'on a fini dans le monde ashkenaz, ce qui de faire un peu l'inverse. C'est-à-dire, on commence par Tosfot, après on arrive à la Gemara, après à la Mishnah, et après on n'a plus le temps d'arriver au Tanakh. Vous comprenez? Il y a tout un chapitre du Maharal où il explique ça après très en détail. Ça, c'est un autre problème. Non, mais la question que je pose est tout autre. C'est très clair que vous connaissez la règle. D'abord, on se remplit de chasse et de postule. Chasse, c'est le côté de Talmud, le postule, c'est le commentaire. Et après, on arrive au Zohar et à la Kabbalah. Ce que je dis d'après ce que j'ai cité, c'est l'inverse. Il faut d'abord accéder à l'arbre de vie, après seulement, l'arbre de la connaissance, c'est pas dangereux. Bon, puisque je parle de ça, je vais jusqu'au bout de la source de la Torah elle-même. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est maintenant qu'il a pris de la connaissance du bien et mal, on va l'empêcher d'accéder à l'arbre de vie parce qu'il va devenir immortel, c'est pas le mot immortel, c'est éternel, avec cette identité atteinte, intoxiquée, je ne sais pas comment dire, du bien et mal mélangé. Alors il faut donc qu'il passe par le choc de désintoxication de la mort pour pouvoir ensuite arriver à la vie éternelle pure. Vous voyez comment la mort est entrée dans le monde d'après ce récit. C'est un récit de Torah, pas de biologie. Ça veut dire que vous vous rappelez du verset, je l'explique. On va l'empêcher d'arriver à l'arbre de vie tant qu'il est dans cet état, de peur qu'il ne tende la main, prenne, en mange et vive éternellement dans l'état où il est bien et mal mélangé. Vous comprenez le problème? Bon. Au niveau intellectuel, chacun d'entre nous a eu cette expérience à sa manière. Parce qu'on a dit tout à l'heure, je cherche un mot, je vais pas contaminé comme dans une maladie par l'ambiguïté de la pensée. C'est une maladie dont on ne peut pas se guérir. Il faut un choc de désintoxication qui permet de surmonter cela. Cette maladie-là s'appelle, dans le langage de Kabbalah, le doute. Quand on commence l'accès à la connaissance par le doute, on ne sort jamais du doute. Et on est dans une pensée secondarisée, qui se secondarise à l'infini, qui empêche le bonheur de la conscience, il faut se guérir de cette intoxication pour arriver à... Vous avez compris de quoi je parle, quoi. Or, selon le texte de la Torah, et selon l'expérience de la vie, il n'y a que le choc de la mort qui peut permettre d'être déconnecté de cela. Bon, on a donné à ce sujet l'exemple de la manière dont on purifie quelque chose qui est devenu impur. Ce qui peut passer par le feu est rendu pur par le feu. Ce qui peut passer par l'eau est rendu pur par l'eau. Mais un vase brisé, il faut le faire fondre pour le... Ah, si vous avez dit, même si le vase est impur, il faut le briser et le refondre. C'est ça que la mort et la résurrection. J'ai compris là. Bon. Alors, si c'était l'ordre normal, l'arbre de vie d'abord, après, l'arbre de la connaissance est positif, je cherche le mot, mais enfin, est bénéfique. Mais si c'est l'inverse, d'abord l'accès à la connaissance conduit, et après l'arbre de vie, on risque de rester éternellement dans cette... C'est une catastrophe. Alors ça ne répond pas à ma question, à la question de méthode. C'est très simple, comme vous allez voir. Je reprends d'abord la source dans le texte. Nikol et Adam achol tochel. Achol tochel. De tout arbre du jardin, manger tu mangeras. Alors c'est clair que c'est y compris l'arbre de la connaissance du bien et mal, c'est l'arbre de vie, mais un autre. C'est clair. Mais Adam achol tochel. votre ami même, mais de l'arbre.